accéder, puis à monitorer. Donc, ça, c'est dans le but, éventuellement, d'être capable de donner une valeur à ces forêts vierges-là. Parce que présentement, pour le dire, là, un espace, un territoire de forêt tropicale, en ce moment, sa valeur, ben c'est la valeur du bétail qu'on peut faire, qui peut brouter sur le territoire. Donc, c'est un peu essayer de protéger ces zones-là en étant capable de mieux mesurer leur valeur en biodiversité.
Et votre technologie, dit-on, a permis la découverte d'une nouvelle espèce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette espèce?
Oui, ben en fait, là, c'est ça. Il y a peut-être comme là-dedans, il y a comme deux projets séparés parce que ça fait plusieurs années là, qu'on est dans les technologies de drones pour aider les chercheurs, les biologistes sur le terrain. Donc, la nouvelle espèce qu'on a découverte, là, c'est avec un bras robotique qu'on a développé qui s'appelle le Mamba, qu'on a développé en partenariat avec le Jardin botanique tropical de Hawaï. Puis c'est dans le but d'aller accéder à des plantes sur les falaises. Puis ben les falaises à Hawaï, ben c'est des endroits majestueux, faut le dire, mais aussi qui abritent là, de nombreuses espèces endémiques qui sont menacées d'extinction. Donc avec des drones, on est capable de les cartographier, donc de prendre des photos. Mais avec notre bras robotique de conception québécoise, ben on est allé là-bas plusieurs fois sur le terrain. Puis ça permet les scientifiques là-bas d'aller prélever des échantillons de ces plantes-là. Donc on parle de graines, de fleurs, puis les ramener pour les étudier parce que des fois, comme la dernière découverte, là, c'est carrément une nouvelle espèce. Mais aussi, c'est des espèces qui sont peu connues. Donc en ramenant des graines, ben ils essaient de les étudier, de les faire repousser dans le jardin, pour par la suite le fermer la boucle et être capable de les propager dans le milieu naturel.
Juste pour nous donner une idée, vous avez combien de robots, combien de drones quand on fait une opération comme ça? Puis est-ce que vous êtes tous sur place en Amazonie? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça vraiment carrément à des milliers de kilomètres de là?
Ben pour le deuxième projet là, qui était le X-Prize Rainforest, là, on était associé avec un gros groupe de chercheurs qui proviennent partout sur la planète. Là, donc autant des États-Unis que ben il y a une grosse majorité aussi qui provenait du Québec. Puis on était à environ une vingtaine là, sur le terrain pour mener l'opération là, qui visait à identifier le plus grand nombre d'espèces en 24 heures. Donc, on a 24 heures où est-ce qu'on a accès à la zone. Puis, ensuite de ça, c'est 48 heures pour analyser tous les résultats, produire un rapport sur la biodiversité de cette zone-là. Puis, ben, le cadre de la compétition faisait en sorte que on ne pouvait pas rentrer dans la zone. Donc, c'est pour ça que l'utilisation des robots, puis notre apport dans le projet, ben, c'était d'être capable de déployer des technologies téléopérées pour tout faire ça à distance. Fait qu'on était comme un peu assis en bordure de la zone. Là, on a navigué sur dans les mangroves. On avait une zone où est-ce qu'on était attribué pour pouvoir opérer nos robots. Puis ben là, la zone, c'était 1 km² qui était situé devant nous. Puis ben on opérait un peu nos robots comme un jeu vidéo là, pour aller déployer des balises dans la forêt, puis ensuite les ramener le lendemain pour être capable de ensuite d'utiliser des algorithmes là, développés par différents chercheurs pour identifier les espèces.
Et moi aussi, c'est un peu là ma question. C'est un peu technique, mais je suis curieuse de savoir, quand tu dis on opère ça comme un jeu vidéo, est-ce que c'est avec une manette comme les drones qui sont commercialisés pour monsieur, madame, tout le monde, ou si vous êtes à l'ordinateur?
Ben là, pour le projet, on a utilisé un drone qui était bâti de façon un peu plus artisanale, je pourrais dire. Donc, on utilisait une manette de Xbox avec un ordinateur. Donc,
wow.
C'est aussi simple que ça. Mais bon, ça rend pas justice peut-être à la complexité du reste.
Non, mais la manette était filaire, hein, n'est-ce pas?
oui, il était branché, puis on s'assurait que le fil ne débranche pas en cours d'opération. Mais c'est aussi des assez gros drones là, qu'on a déployés. Pas nécessairement ceux qu'on peut se procurer là, directement au magasin, mais c'est parce qu'on voulait déployer des balises qui contenaient beaucoup de capteurs. Là. Fait qu'on peut imaginer une espèce de radeau qu'on dépose sur la cime des arbres, puis qu'on laisse là durant 24 heures pour accumuler le plus de données. Puis sur cette balise-là, on a des caméras, on a un système acoustique, on a des capteurs qui ramassent l'ADN. Donc, toutes ces vecteurs de données là. Ben après ça, ils sont analysés pour être capables de répertorier le plus grand nombre d'espèces.
Guillaume Charron, cofondateur de Outreach Robotics, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Mais ça fait plaisir.
Gang de chez nous, des gens de Sherbrooke qui explorent l'Amazonie, qui explorent Hawaï et peut-être d'autres endroits. Tout ça est très intéressant. Nous allons revenir, mesdames, messieurs, dans les prochaines minutes avec la politique et ce remaniement, cette dernière valse sur le Titanic en train de couler. Titanic des libéraux de Justin Trudeau.
Ici Marc Brière. En cette période de réjouissance, je vous souhaite du bonheur à profusion et des rencontres familiales des plus agréables. Et surtout, soyez prudents lors de vos déplacements. Joyeux Noël à tous!
Albi le géant. Du 11 au 21 décembre, ne manquez pas la vente des 10 jours d'avant Noël chez Albi le géant. Achetez ou louez un véhicule en inventaire et obtenez 250 $ de carte prépayée d'essence ou crédit de recharge. Profitez de la pleine subvention avant sa réduction le 1er janvier prochain. Albi le géant, on vous attend.
Moi, dans le temps des fêtes, je suis conducteur désigné parce que ça me fait plaisir. Parce que je veux que mon monde revienne en sécurité. Mais aussi parce que ça a ses avantages, comme se faire payer de l'essence ou son lunch à la commande à l'auto. Après ça, mes amis m'en doivent une. Ça pourrait être pratique. Supposons que je leur ai pas encore annoncé que j'ai possiblement perdu l'habit de Père Noël que j'avais promis de prêter à leurs 6 familles. Mais c'est surtout parce que c'est un beau geste.
Il y a plein de bonnes raisons d'être conducteur désigné. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Profitez des offres d'avant Noël chez Sale. Obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur une variété de produits de plein air des saisons antérieures et jusqu'à 50 % de rabais sur une sélection de manteaux, bottes d'hiver, équipements et plus encore. Sale, la plus grande destination plein air 100 % québécoise.
Votre circulaire métro reçu par la Poste? Pas de problème. Cette semaine, retrouvez tous nos prix des fêtes sur métro.ca. Le rôti de côte de bœuf triple A est à 9,99 la livre ou 22,2 le kilo. La crème glacée Quatico est au prix imbattable de 4,77 et les cassoules bleues à 170 grammes sont à 1,44. Pour consulter notre circulaire complète en ligne, on se retrouve sur métro.ca. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin.
Puis, ta nuit.
Ah, comme on dit, je suis tombée dans les bras de Morphée. D'ailleurs, ça te dérange pas si tu déjeunes avec nous autres?
Vous souffrez de réveil nocturne et d'un sommeil agité? Dites bonjour aux nuits paisibles sans réveil nocturne avec le nouveau supplément naturel Nuit sans réveil d'Adrien Gagnon. Disponible en formule avec ou sans mélatonine, il vous aide à rester endormi toute la nuit. Faites confiance à votre expert sommeil et stress, Adrien Gagnon. Votre marque québécoise de confiance depuis 1946. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Ici Martin et Danny. Que diriez-vous de gagner une soirée exceptionnelle pour 10 personnes au restaurant italien Gâteau Matto?
C'est simple, il suffit de vous inscrire au 985fm.ca, section concours.
Pendant les fêtes, Elisabeth Crête anime Le Québec maintenant. Entourée de ses collaborateurs, elle vous propose une revue de l'actualité du jour dans un style respectueux et chaleureux, bien à elle. Les lundis, mardis et vendredis, 15h au 98.5. Au Cogeco Média. Vous écoutez même le week-end. De retour à Jeffrey Soubrani.
8h22, on va parler de politique, remaniement hier comme un dernier tour de carte, peut-être dernier essai, s'accroche au pouvoir. Mais là, Justin Trudeau, semble-t-il, réfléchit sérieusement à son avenir comme chef du Parti libéral. On sait qu'il y a une vague bleue qui se prépare à Ottawa. Elle est avec nous pendant les fêtes, Antonine Iaccarini. Merci d'être là.
Merci de m'accueillir.
Et hier, donc, c'était le remaniement pour remplacer quelques départs, notamment un remaniement de Noël. Quels sont les faits saillants de ce remaniement?
Ben, j'ai bien aimé ton intro tantôt avant la pause là, sur le Titanic. Moi, je trouve que l'image est assez frappante. Donc, pour le premier fait saillant, je dirais l'absurdité de la situation. On s'entend que c'est un petit peu des tentatives pour Justin Trudeau là, de s'accrocher qui se poursuivent. Fait saillant, bon, on a 8 nouveaux ministres. Je vous invite à ne pas trop vous attacher. J'ai pas l'impression qu'ils vont avoir le temps de déployer énormément de politique. Parmi ceux-là, il y a Rachel Mendayane, qui est une députée de Montréal qui accède au dossier des langues officielles. D'ailleurs, son petit point de presse hier, là, à la sortie de son assermentation, a fait jaser parce que traditionnellement, la ministre des langues officielles défend le français. Là, on essaie de mettre quelqu'un de francophone à ce poste-là. Et c'était Ginette Petitpas-Taylor qui était sa prédécesseur et c'était une francophone du reste du Canada. Mais elle s'est ravisée en fin de soirée, Rachel Bendayan, parce qu'hier, elle a refusé de dire qu'elle allait défendre le français au Québec, ce qui a fait beaucoup jaser, vous doutez bien. Sinon, je pourrais tout vous faire la liste de ces ministres-là, mais comme je vous dis, j'essayais d'imaginer hier la tête des fonctionnaires qui vont remettre les cahiers de briefing à ces ministres-là. Quel genre de discussion ils vont avoir dans les prochaines semaines? Est-ce que ces ministres-là ont plein de projets? Puis ils regardent les fonctionnaires puis disent, j'ai plein de belles choses là, que j'aimerais déployer.
Une grande motivation. Et moi, ce que je trouve particulier dans le contexte, c'est que ces gens qui viennent d'être nommés par Trudeau se sont gardés, en tout cas médiatiquement, de prendre sa défense.
Oui, ils se gardaient vraiment une belle porte de sortie. En fait, il y a seulement Mme Petitpas-Taylor, justement, qui a changé de dossier, là, qui se retrouve au dossier du Trésor, qui a été un petit peu plus, disons, loyale envers le premier ministre, là, en disant qu'elle voulait continuer de travailler avec M. Trudeau, mais les autres, on s'entend qu'on parlait d'unité. Et l'unité, ben, que ce soit M. Trudeau ou que ce soit un autre chef à sa place, c'est toujours pertinent, donc ça va peut-être mieux vieillir que d'autres déclarations.
Mais c'était assez fou de voir ça, les beaux sourires, là, comme si les poignées de main, les photographes, comme si tout allait bien. C'est...
Ouais, et les parties de Noël... c'est peut-être fini. Là.
Et les parties de Noël du Parti libéral ou de Justin Trudeau, je suis comme... Mais comment tu peux avoir cette façade-là?
C'est vraiment l'absurdité. Puis l'autre élément qui est frappant, l'autre fait saillant de ce remaniement, c'est le fait que M. Trudeau refuse de parler aux journalistes. Là. Ça fait depuis lundi qu'il se cache. Il a parlé aux donateurs du parti. Il y avait un party lundi soir du Club Laurier. Il a parlé à ses staffers, à ses élus. Mardi soir, c'était le party de Noël de l'aide parlementaire du Parti libéral. Mais on ne parle pas aux médias. Donc, on laisse les ministres, les députés se dépatouiller avec les questions des médias. Puis ça aussi, là, c'est un peu, comment dire... J'ai envie de dire égoïste de la part de Justin Trudeau parce que évidemment on peut parler de l'intérêt du pays. On est dans une instabilité, on n'est pas en position de force face à un Donald Trump qui arrive le 20 janvier. C'est très inquiétant, mais même face à sa propre équipe, il met ses élus puis les employés politiques dans une situation qui est extrêmement inconfortable en espérant gagner du temps pour réfléchir. Prenez votre temps, Monsieur Trudeau, là. Monsieur Trump s'en vient au mois de janvier. Et là, on n'a comme plus de scénario idéal. Si on regarde toutes les possibilités, il n'y en a aucune qui est très agréable pour personne.
Il y a eu le 250$, il y a eu le congé de TPS, c'est clair, les sondages, ils les ont aussi à l'interne. Tout le monde le sait, tout le monde le voit que c'est Poilievre qui s'en vient, qui sera le premier ministre du Canada. À un moment donné, il faut juste comme se retirer. Puis idéalement, se retirer dans la gloire, mais là, il est trop tard pour se retirer dans la gloire.
Ouais, M. Trudeau est en train de rater, en fait, la fin du chapitre sortie, de son livre, de son livre hypothétique, en s'accrochant. Puis on se dit, avec le recul, il aurait peut-être dû commencer à préparer sa sortie plus tôt. Il semble qu'il était un peu dans sa bulle, dans son déni. Il semble que son entourage aussi l'encourage à s'accrocher, malgré les appels de certains députés à ce qu'il démissionne. Mais ça peut être embêtant comme situation parce que c'est pas la majorité des députés non plus. C'est sûr que ça fait couler beaucoup d'encre quand t'as tes propres députés qui sortent dans les médias pour
ça
faire
ça. Ça en prend juste
appels-là.
Un, en fait.
Puis, évidemment, Christopher Freeland lundi, c'est énorme. Là. C'est la ministre des Finances, c'est son bras droit. Sauf que là, maintenant, c'est ça. On n'a plus vraiment de scénario idéal. M. Trudeau veut réfléchir pendant le temps des fêtes. Donc, on perd un temps précieux qu'on pourrait prendre à se préparer face à l'arrivée de Trump. On comprend qu'en politique, personne ne veut remettre les clés du pouvoir à son adversaire. Donc, oui, effectivement, tout le monde voit les sondages. Sauf que, évidemment, il n'y a aucune envie, aucun appétit de déclencher des élections. Le NPD non plus, d'ailleurs, malgré ce qu'on tente un peu de nous faire croire cette semaine. Donc, c'est quoi les options qui restent à M. Trudeau qui permettraient de servir son intérêt, mais aussi celui du pays en même temps? Bien, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Il pourrait proroger. Donc, on fait une espèce de remise à zéro des projets de loi. De toute façon, le Parlement est pratiquement paralysé là, depuis plusieurs semaines. Ça lui donnerait le temps peut-être d'organiser certaines choses. Il pourrait décider de rester, de proroger, mais il pourrait aussi décider de quitter et de proroger pour laisser le temps à une espèce de course à la chefferie d'avoir lieu au Parti libéral. Mais même ça, une course à la chefferie, vous savez, ça prend normalement des mois à tenir une course à la direction. Il y a une autre option. Il pourrait décider aussi que c'est le caucus qui va décider d'un successeur, d'un premier ministre par intérim, par exemple. Ça pourrait aussi être une option, mais ça cause aussi d'autres problématiques. Ça ne met pas nécessairement le gouvernement en position de force face aux États-Unis non plus.
Est-ce qu'il aurait pu ne pas faire de remaniement ministériel? Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose?
Bien, s'il avait pris sa décision plus tôt, ce remaniement-là aurait été inutile. Ce remaniement-là, il sert à, disons, alléger la tâche de certains ministres.